Radio Okapi.
Jocelyne Moussa au fond de pour les journaux.
Okapi.
Les titres de cette édition, incursion d'hommes armés la nuit de mardi à mercredi dans le village d'Ezekeri en Ituri. 4 personnes sont mortes et une vingtaine de maisons incendiées. Le mobile de cette attaque n'est pas encore connu, indique la société civile. Nord Kivu, plusieurs dossiers judiciaires accumulés dans les juridictions civiles et militaires de Massissi et de Rutshuru. Les moyens logistiques et financiers font défaut. Parmi les conséquences, la détention prolongée des prévenus dans différentes prisons de la province. Et puis la réaction du gouverneur de la province orientale sur la campagne d'un civisme fiscal dans le district du Haut-Ouélé. Jean Bamanissa appelle la société civile à pouvoir plutôt sensibiliser la population à payer impôts et taxes afin de donner à l'État les moyens de sa politique. Bonjour à tous. Commençons en Ituri. 4 morts et une vingtaine de maisons incendiées par des hommes armés non encore identifiés dans la nuit de mardi à mercredi dernier à Ezekeri. C'est un village situé à une trentaine de kilomètres au nord de Bounia dans le secteur de Walendu Utati en territoire de Djougou. Selon la société civile locale qui livre l'information à Radio Okapi, ces hommes armés ont également pillé ce village. Martial Kiza.
C'est tard dans la nuit que ces hommes armés ont fait incursion dans les villages des Ekéré. Selon la société civile d'Ndjougou, ces assaillants étaient munis de fusils et d'autres armes blanches. Ils ont tout de suite mis les feux sur des maisons d'habitation tout en tirant à balles réelles dans toutes les directions. 4 personnes sont mortes sur place et plus de 10 autres ont été gravement blessées. Gilles Touba, président de la société civile d'Ndjougou.
Il y a eu des civils armés qui ont fait éruption à Ekéré. Il n'y a pas l'armée, alors il y a une position des forces armées loin de ces milieux-là.
Raymond Tchédiapataye, député national. L'élite de Djougou parle d'une situation insupportable. Tout en condamnant cette incursion, ces députés de la majorité appellent le gouvernement provincial à doter les services de sécurité des moyens importants pour lutter contre les banditismes armés en Djougou. Raymond Tchédia.
Nous déplorons et nous dénonçons avec dernière énergie ce qui s'est passé dans ces groupements. Le gouvernement provincial doit équiper, doit doter les services spécialisés de l'État pour le bon travail. Et tous ces services-là doivent aussi doubler l'effort pour qu'on arrive à bouter hors d'état de nuit tous ces malfrats qui viennent nous insécuriser ici dans le territoire de Ndjougou.
Les mobiles de cette attaque n'est pas encore connu. Les blessés sont soignés dans une structure médicale de la région selon la société civile. Bounia, Martial Kizagamungu, Radio Kapi.
Le général-major Gabriel Amissi, depuis hier soir, en Bandaka, dernière étape de sa visite d'inspection à l'Équateur. Le commandant de la première zone de défense a tenu ce jeudi une parade mixte FRDC et police nationale. Il a insisté sur la vigilance des services de sécurité et la bonne collaboration avec les populations civiles en vue de parer à toute éventualité face à l'afflux des réfugiés centrafricains dans la province. Le point de son adresse avec Paul-Richard Malengela qui intervient depuis Mbandaka.
Partout où il est passé, à Guémena, Badouli, Tepotapoli, Bili et Zongo, le général-major Gabriel Amis s'est d'abord félicité du comportement des troupes visitées. Toutefois, il estime que l'ennemi a filtré le territoire congolais sans donner plus de détails. C'est pourquoi le commandant de la première zone de défense a exhorté ses troupes à la vigilance tout admise, notamment sur le mouvement des réfugiés centrafricains qui continuent encore à traverser la frontière congolaise. Car, a-t-il souligné, l'afflux des réfugiés a toujours attiré une guerre, allusion faite à la situation d'insécurité persistante que connaît l'Est du pays. À cet effet, Gabriel Amis a recommandé une bonne collaboration entre les unités, mais surtout entre les hommes en uniforme et les populations civiles. C'est en vue notamment d'accéder à des renseignements utiles pour réussir leur mission de sécurisation, a-t-il renchéri. Son adresse a été également focalisée sur la discipline militaire, comme sur l'apolitisme de l'armée et de la police au regard des élections qui pointent à l'horizon. Parmi les difficultés exprimées par les troupes à l'Équateur, le général-major Mami s'y dit avoir enregistré entre autres le problème des rations et des médicaments, l'insuffisance d'armes ainsi que des matériels de communication et des véhicules des troupes. Il a promis d'en discuter avec sa hiérarchie pour des solutions appropriées. Mbandaka, Paul Chamalingela, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les juridictions secondaires, civiles et militaires font face à d'énormes difficultés au niveau de leur fonctionnement, notamment en ce qui concerne l'organisation des audiences foraines dans les territoires. C'est le cas du territoire de Rutshuru où une vingtaine de dossiers sont actuellement fixés au tribunal, sur une centaine en souffrance à l'auditorat. Plusieurs autres dossiers traînent dans ces juridictions et les responsables ne savent pas quoi faire. Reportage de Sifa Maguro rendu par Denise Loukesso.
Faute de moyens logistiques et financiers disponibles, les juridictions civiles et militaires ne peuvent pas organiser elles-mêmes des audiences foraines à travers la province. C'est du moins ce qu'affirment des sources proches de l'auditorat militaire. Cette situation a, entre autres conséquences, le retard observé dans l'instruction de plusieurs dossiers, mais aussi la détention prolongée des prévenus dans différentes prisons de la province. Toutefois, beaucoup de partenaires, qu'il s'agisse de la MONUSCO, du PNUD ou de certaines ONG internationales, interviennent dans le secteur de la justice pour justement l'aider à faire face à ces problèmes. Henri Machagiro, qui s'occupe de ces volets au PNUD, explique la procédure d'accès aux fonds lorsqu'il faut organiser des chambres foraines dans l'arrière-pays.
C'est la juridiction qui évalue dans les différents territoires les types de crimes qui sont commis et ils nous soumettent des demandes d'appui. Et c'est sur base de ces demandes d'appui que nous agissons. Et c'est ce qui est le cas actuellement, par exemple à Kichanga, où il y a une audience foraine.
Aussi, face aux nombreux abus et violations commis à travers la province, les victimes souhaitent qu'il y ait diligence dans le traitement de leurs dossiers afin qu'elles soient rétablies dans leurs droits à travers les jugements rendus par les cours des tribunaux civils ou militaires. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Justice encore, Étienne Kabila est désormais libre. Ces Congolais qui affirment être un des fils de l'ancien président congolais Laurent Désiré Kabila a été acquitté hier mercredi 18 février par la Haute Cour de Pretoria en Afrique du Sud. Étienne Kabila a été acquitté après avoir passé près de 2 ans en prison. La Haute Cour de Pretoria n'a pas donné les raisons de son acquittement, mais a précisé qu'elle donnerait toutes les explications vendredi. Étienne Kabila a été arrêté en février 2013. Il était accusé avec 19 autres personnes d'avoir voulu renverser le président Joseph Kabila. La plupart de ces hommes ont été acquittés l'année dernière, faute de preuves. Toujours dans le même chapitre, arrestation depuis hier en Zambie d'une centaine de Congolais par les agents de la migration zambienne. Information livrée à la presse par les commerçants transfrontaliers et confirmée par les autorités de la cité de Kasumbalesa. Selon ces sources, ces Congolais sont arrêtés pour séjour irrégulier sur le sol étranger en exerçant de commerce sans documents appropriés. Ces arrestations interviennent 2 jours après la alerte de l'administration zambienne aux commerçants congolais de se munir des jetons des visites comme convenu par les deux pays. Retour au pays, en province orientale, 4 jours après la publication par la société civile du Haut-Uele de la décision de la suspension du paiement des taxes, impôts et autres redevances dues à l'État par la population, le gouverneur de la province orientale donne de la voix. Jean Bamanissa Saïdi déclare que la réhabilitation des routes est un problème qui le tient à cœur. Elle nécessite des moyens financiers conséquents. Plutôt que de pousser la population à l'incivisme fiscal, la société civile devrait l'exhorter à payer ce qui revient à l'État pour lui donner le moyen de sa politique. Jean Bamanissa Saïdi est au micro dans cette même assoie.
En ce qui concerne les désenclavements, effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous ne sommes pas tranquilles. Nous pensons que la société civile doit au contraire pousser les opérateurs économiques, les assujettis à payer les taxes parce que avec nos moyens que nous percevons ici, nous sommes en train de faire les études pour de ici jusqu'à Niangara avec une équipe de la FEC Wacha. Nous sommes en train de négocier comment est-ce que nous pouvons leur signer un contrat de concession pour qu'ils fassent la route. Il nous faut absolument des moyens pour pouvoir nous lancer dans les ouvertures de route. Mais nous ne pouvons pas pousser à l'incivisme fiscal comme la société civile la préconise. Ce n'est plus permettre de continuer à faire les travaux. C'est un geste d'illégalité aussi que celui de pousser à l'incivisme fiscal.
Rappelons que la société civile du Haut-Ouélé a décrété la suspension du paiement des taxes depuis le 13 février dernier jusqu'au désenclavement total de cette juridiction. Revenons sur le rapport de l'ASADO rendu public mardi dernier, faisant état du manque de transparence, de qualité et du respect des droits humains dans la réalisation des travaux des infrastructures à Kinshasa. Le directeur de cabinet adjoint du ministère des infrastructures qui intervenait dans Dialogue entre Congolais d'hier soir estime que les conclusions de ce rapport reflètent un déficit d'information. L'écoute au micro de Kéline Kouté.
Nous pensons qu'il y a un grand problème d'information ou d'interprétation des chiffres. Et à ce niveau-là, nous voulons dire que l'ASADO avait été invité par l'agence de grands travaux, après consultation de son site, de venir pour préciser certaines choses. Et je pense que ça n'a pas été le cas. En ce qui concerne le boulevard du 30 juin, il y a un détail. Vous savez qu'on a 8 voies. Donc, une route à 8 voies est un équivalent de 4 routes. Donc, à ce niveau, déjà, il y a un problème de comparaison. On parle de 19 millions. Si je peux faire rapidement 5 km fois 4 routes, c'est 20 km. Donc, si je prends les 19 millions divisé par 20 km, on est un peu en dessous de 1 million. Mais, par contre, si quelqu'un prend 19 millions divisé par 5 km, c'est un autre chiffre. Et la deuxième chose que je veux dire sur le boulevard du 30 juin, vous savez que c'est une zone marécageuse. Je viens de vous expliquer tout à l'heure le soubassement. Il faut faire la part de choses entre la route que vous posez et tout ce que vous devez faire pour épuiser la nappe. Tout le monde a observé qu'on est allé parfois à plus de 1 mètre.
C'est par ici que s'achève ce journal de midi. Merci à vous tous de l'avoir suivi.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.